Bon, ouais, merci de m'avoir accompagné. Là. Ça a pris une petite trotte, mais on est arrivé, hein?
Oh, si t'appelles 1h30 de char, une petite trotte?
Ben oui, mais c'était l'offre de plein air le plus proche de la maison. Là. Bon, hey, regarde-moi ça. Hey, on est du pain dans la nature, hein?
Ben, je vais te le dire quand on va être là, là. Il y a tellement de monde, on dirait un quartier résidentiel.
Ben, voyons donc. Hey, un bon, c'est là. Avez-vous entendu ça, tout le monde? Ils pensent qu'on est dans un quartier résidentiel. Mais voyons, t'as pas vu les champs d'herbe, là?
Ça, c'est du gazon, Pac.
Oh, pis regarde le petit ruisseau là-bas, là.
Ben, c'est le gars là-bas qui vide sa piscine.
Oh, regarde les animaux juste là, là. Ils sont donc bien sociaux.
Sont en plastique.
Regarde-moi ça, je passe juste à côté pis ils bougent pas d'un pouce. Je te dis qu'ils sont habitués de voir du monde, hein?
C'est quoi la file là-bas?
Ça? Oh, ben, ça, c'est le point pour prendre des photos avec la forêt derrière.
Tu veux dire avec la headset, là?
Pis là, regarde, là, je t'ai pas amené ici pour que tu scrapes mon moment reconnexion avec la nature.
Ouais, ben, j'imagine qu'on n'a plus la proximité avec la nature qu'on avait, hein? Encore une fois, bienvenue au balado de l'OQL. Mon nom est Fred Ross et je vous accompagnerai tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, on accueille 3 invités pour parler de plein air de proximité et de tourisme. Ah, la nature, le pays de l'air pur, des ambiances auditives paradisiaques. Non, pas ce bruit-là, l'autre bruit. T'es mort par en dedans, j'ai dit paradisiaque. Ah, c'est mieux. Je disais donc, ah, la nature, le pays de l'air pur, là où il fait bien se sentir bien. L'endroit où on est heureux d'être content. En effet, on peut lire sur le site internet de Prescrit Nature que les personnes qui passent au moins 2 heures par semaine dans la nature disent avoir une meilleure santé et un sentiment de bien-être nettement plus grand. À moins bien sûr de tomber face à face avec un ours affamé.
Ah, ça sera pas long chérie, j'attrape encore 2 papillons puis j'arrive.
Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, je m'appelle Winnie et je cherche un peu de miel. J'ai faim.
Cours mon amour, laisse les papillons puis cours!
Je disais donc une meilleure santé et un sentiment de bien-être nettement plus grand. On dirait qu'on est beaucoup au Québec à vouloir être heureux d'être content parce que, selon la publication « Le plein air de proximité, un outil pour le développement local et municipal » du gouvernement du Québec, ben, entre 2014 et 2020, le taux de fréquentation des parcs nationaux a bondi de 50%. En plus, le nombre de visiteurs de la majorité des parcs régionaux a aussi connu une augmentation super importante. En 2020, l'achalandage moyen des parcs a augmenté de 13% par rapport à 2019. Pour avoir un meilleur portrait, aujourd'hui, on va faire du pouce entre le concept de tourisme et celui d'activité de plein air. Voici donc leur définition. Le tourisme selon le World Tourism Organization. Le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui suppose des mouvements de personnes vers des pays ou des lieux situés en dehors de leur environnement habituel, intervenant pour des motifs personnels ou pour affaires et motifs professionnels. Ces personnes sont appelées visiteurs et peuvent être des touristes ou des excursionnistes. Oui, ça excurse. Essayez de dire ça, ce mot-là. Excursionnistes des résidents ou des non-résidents. Le tourisme englobe leur activité dont certains impliquent des dépenses touristiques. Une activité de plein air selon le gouvernement du Québec. Une activité de plein air se définit comme une activité physique pratiquée en milieu ouvert dans un rapport dynamique et harmonieux avec des éléments de la nature. C'est une activité récréative et de pratique libre lors de laquelle une personne cherche une certaine harmonie avec des éléments de la nature environnante dans un esprit de détente, de découverte, d'exploration ou d'aventure. Son intensité peut être modulée en fonction des capacités physiques de la personne et de son besoin de dépassement. À ce concept, on ajoute l'adjectif de proximité. Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier? Ben, toujours selon la publication du gouvernement du Québec, le plein air de proximité, un outil pour le développement local et municipal, le plein air de proximité se distingue par ses lieux de pratique, situés principalement dans les espaces naturels des villes et des villages. Il se trouve dans les espaces verts, près des zones d'habitation, des écoles, des milieux de travail, des centres d'hébergement ou même des milieux de garde. Il permet à la population un contact régulier avec la nature, par exemple les sentiers, les parcs, les plans d'eau, les parcs nautiques, les corridors verts, bleus, blancs, aux terrains et espaces naturels, aménagés ou non. Bref, il existe plusieurs exemples de ce concept-là. Pour ce qui est de la proximité, donc l'effet de distance, la Commission européenne et l'Office mondial de la santé recommandent que chaque résident dispose d'un espace vert à moins de 300 mètres de son domicile.
Ah, Bob, je sais pas si t'es rendu, mais commence à manquer de tape, moi, là.
Ben oui, mais je suis sûr qu'il y avait une meilleure façon de mesurer le 300 mètres, là.
Ah,
oh, merde, je viens de lâcher
le
tape.
Ah, ça va pas ici.
Maintenant qu'on a bien cerné les concepts, on peut passer à nos trois invités, parce que oui, on a encore une fois un tour du chapeau. Donc là, si mes calculs sont bons, on aurait un tour du chapeau du tour du chapeau. Ah!
Ça fait vraiment beaucoup de chapeaux, ça.
Nous avons donc, avec nous aujourd'hui... Isabelle Falardeau, professeure au département d'études en loisirs, culture, tourisme de l'UQTR. Sylvie Mio, professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'UQTR. Elle est aussi co-directrice du laboratoire loisirs et vie communautaire et co-directrice du centre d'excellence en loisirs. Et on finit le panel avec Alexandre Fréchette, conseiller régional en plein air à l'URLS Lanaudière. Il est aussi fiduciaire de la fiducie écosystème Lanaudière et découvreur passionné des milieux naturels. Parlant d'Alexandre, débutons avec lui puisque tous les sentiers mènent à son boulot. Ceci est un avertissement. Bien que la voix d'Alexandre ait quelquefois des tangentes robotiques, nous vous assurons qu'il s'agit uniquement du micro qui fait des siennes. Alexandre est une vraie personne qui a été en mesure de le prouver en cliquant sur tous les panneaux arrêts parmi les images transmises. De retour à notre programme principal. Je lui ai posé la question suivante. Alexandre, pourquoi faut-il développer le plein air de proximité? Et voici sa réponse.
Ben, d'abord, j'aurais l'impression qu'on a trop de raisons par rapport au temps qu'on a pour le dire. Mais je vais commencer par quelques-unes qui sont un peu plus flagrantes au départ. C'est que d'abord, pour moi, c'est une demande sociétale. Le nombre de pratiquants en loisirs a explosé en plein air, a explosé au fil des dernières années. Puis, le plein air représente, parmi toutes les autres activités de loisirs, celle qui a le plus grand nombre de participants. Et là où les participants le font de manière la plus fréquente aussi. Donc, c'est un secteur du loisir qui est en effervescence. Puis parce que le contact avec la nature donne un impact assez positif sur la santé des individus aussi. Ce qui veut dire que ça a, au-delà de l'augmentation de la qualité de l'activité physique et tout ça, ça augmente la santé. Puis ça peut éviter certaines dépenses au niveau médical aussi. Il y a une étude qui est sortie à ce niveau-là aux États-Unis qui c'est chaque dollar investi dans les sentiers représente 1,83 sous d'économie dans le milieu de la santé. Donc, c'est assez intéressant de le voir de ce point de vue-là. Puis, d'une autre façon, ben, c'est aussi parce que le plein air de proximité représente un objet pour le développement local. Puis, c'est comme ça que j'aime le percevoir parce qu'il nous aide par rapport à l'environnement à atteindre des cibles en matière de protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'il peut nous amener à avoir un bilan carbone positif au niveau de la municipalité. Il peut nous amener aussi à établir une stratégie urbanistique pour acheter des terrains qui sont des forêts, des bords de l'eau. Tout ça rend la nature plus accessible. Tout ça, c'est des opportunités de contact avec la nature qui se déploient grâce au plein air de proximité.
En début d'épisode, nous avons expliqué ce qu'était le plein air de proximité et le tourisme. Le tourisme selon... Non, c'est déjà fait. Par contre, bien qu'on ait défini rapidement les concepts et qu'on sait grâce à Alexandre qu'il est important de développer le plein air de proximité, ben une question demeure en suspens. Oh, excusez, elle vient de tomber, je vais la ramasser. Bon, voilà. Est-ce qu'on développe le tourisme et le plein air de proximité de la même façon? Voici Isabelle sur le sujet.
Quand on est un peu dans le giron de la convergence entre les deux concepts, justement, une idée qu'on utilise beaucoup pour réfléchir à ça, c'est l'hybridation. Donc, l'hybridation entre les lieux, puis l'hybridation aussi entre les pratiques, justement. Donc, on parle d'une hybridation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de liens, justement, ou de moins en moins de différenciation entre, par exemple, tourisme et loisirs, entre vie quotidienne et vacances, etc. Ça, c'est des travaux, par exemple, les travaux de Maria Gravary-Barbas en contexte plus urbain, elle démontre bien ceci, mais c'est une notion en tourisme qu'on utilise beaucoup. Donc, le tourisme et les loisirs, c'est de plus en plus la même chose. Les lieux de pratique de plein air, air et les activités de plein air de plus en plus partagées entre les touristes et les non-touristes, les résidents, dans leur contexte quotidien. Ça a des implications, c'est-à-dire que les touristes vont vouloir fréquenter des lieux qui sont à la base des lieux du quotidien, donc des lieux de plein air. Les gens, dans leur vie quotidienne, vont vouloir vivre tous les jours comme des touristes. Donc, dans leur pratique de plein air, vont vouloir aussi vivre ces moments extraordinaires ou entreprendre peut-être des grandes aventures.
Journal de l'aventurier. Plus de nourriture ni d'eau potable. Je dois maintenant me fier à mon instinct pour survivre. J'aurais jamais cru que cette aventure serait si intense.
Chérie, les voisins viennent souper avec leur quadruplé.
Bordel, la situation devient de plus en plus critique.
Chérie. Chérie.
Quoi?
Tu es sorti de la headset, là? Laisse donc Isabelle finir pour savoir si on développe le tourisme et le plein air de proximité de la même façon.
OK.
On va planifier d'abord les espaces et leur mise en tourisme ou leur mise en activité, d'abord du point de vue des fonctions des usagers, des pratiques des résidents, puis ensuite, la fréquentation touristique va s'y intégrer, puis va pourquoi pas y contribuer aussi. Donc, on va voir tabler sur, par exemple, ben oui, les revenus que ça génère pour les localités, etc., mais aussi sur l'amélioration peut-être des infrastructures et des aménagements qui peuvent être conçus et mis en place là, par cette approche. Donc, évidemment, ça paraît vraiment beau et facile comme ça. C'est pas une recette magique, mais c'est une idée qu'on essaie d'utiliser de plus en plus. Voilà, et dans cet esprit, ben, j'aime bien penser à l'idée de cette nature ordinaire qu'on a avantage, je dirais, à mettre en valeur, puis à considérer dans le plein air, puis dans le tourisme de nature. Donc, hors des grands icônes des lieux comme les parcs nationaux, cette nature de proximité, c'est Larère et Larère qui appellent ça la nature ordinaire. Je trouve ça très beau. On est beaucoup dans cette notion de proximité. Il y a des affinités certaines là, où on peut trouver un terrain d'entente entre le plein air et le tourisme.
Oh, stop, 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 je coupe cet extrait tel un DJ qui mixe sa soirée sur YouTube pour ajouter une petite parenthèse ici. Isabelle, dis-moi, est-ce que tous les produits de plein air de proximité sont aussi des produits touristiques?
Je pense que beaucoup de personnes aimeraient que la réponse ce soit oui, que dans le fond, si vous le construisez, ils viendront, puis c'est pas du tout ce que je voulais évoquer en mentionnant l'approche récréo-touristique, là, tous les lieux de plein air ne peuvent pas devenir des icônes touristiques, bien qu'on a souvent tendance à un peu souhaiter ou surestimer le potentiel touristique, je crois, des lieux de pratique. Parce qu'on a eu tendance ou on aimerait utiliser les leviers que procure le tourisme, par exemple, justement, pour améliorer les lieux de pratique à l'intention des résidents. C'est vrai que c'est possible, mais ça ne veut pas dire que tous les lieux de pratique sont nécessairement destinés à ou peuvent avoir le potentiel là, d'être hautement attractifs. Donc, ni oui ni non!
Bonjour et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Étienne-du-Bout-en-Feu. Nous débutons cette plénière avec le témoignage d'un citoyen pas content qu'on ait transformé les jeux d'eau d'un parc en super aquaclub.
Allô tout le monde, je suis plus capable des maudites clignotants. C'est rendu que le soir quand je ferme mes yeux, j'entends encore les... Je suis plus capable.
On continue maintenant avec Sylvie qui nous partage sur les raisons pour lesquelles il est important de préserver les espaces naturels en ville, notamment en matière de loisirs. Petit complément d'information, je vous informe que les enregistrements ont eu lieu en décembre 2022.
Alors, on est en plein cœur de la COP15 à Montréal. On nous dit à quel point la biodiversité, c'est important, il faut préserver. Le Québec est en train de réfléchir justement à des stratégies. Puis, c'est vrai que si on regarde... Ça a des effets très positifs, en fait, au niveau du bien-être général de la population. Il y a plusieurs études qui l'ont montré. Ça a des effets positifs, notamment sur la santé mentale. Ça fait diminuer le stress. Pour les personnes qui sont dépressives ou qui sont sujettes à de l'anxiété, ben, on voit à quel point ça va jouer, ça va diminuer, en fait, ça va vraiment avoir un effet, à tel point qu'il y a des médecins à l'heure actuelle qui prescrivent des sorties en nature. Donc, ça s'appelle Prescrit Nature, on peut le trouver ça sur Internet, donc pour montrer justement à quel point c'est devenu un enjeu important. Ça permet aussi, on le voit, hein, pour les gens qui sont sportifs, hein, faire du sport en nature, c'est bénéfique. Ça va même motiver davantage à bouger, notamment chez les plus jeunes. Et d'autres éléments qui sont peut-être un peu moins connus, les espaces verts, ça facilite aussi l'inclusion sociale et communautaire. Donc c'est vraiment des espaces, notamment les parcs, on le voit, où les gens se rassemblent, vont faire des pique-niques, notamment des communautés immigrantes souvent, qui vont se retrouver. Et par rapport justement à cette population-là, il y a une étude d'Ordic et Hall qui nous dit que dans le processus d'adaptation, pour l'arrivée donc, des immigrants, en fait, ils ont montré que ces environnements naturels les aident beaucoup à s'intégrer et à faire face aux défis, justement, de cette étape de leur vie. Donc, c'est aussi un élément important pour ces populations-là. Ce qu'on voit aussi beaucoup en loisirs, on nous parle beaucoup de pratiques libres, mais la pratique libre, elle se fait aussi beaucoup dans ces espaces de nature, que ce soit les parcs urbains, mais aussi dans des forêts urbaines, des boisés urbains. C'est facilitant, si on a un accès à proximité, le ministère le dit, le plein air de proximité, c'est une autre façon de penser justement à l'activité physique, donc il faut encourager et préserver au final ces espaces-là.
Bon, maintenant qu'on a parlé du développement, de la préservation, il serait temps maintenant de parler de l'encadrement. Voulez-vous bien me dire comment est-ce qu'on fait pour offrir un éventail de services sans altérer un lieu qu'on souhaite naturel?
À mon goût, sans lunettes de soleil, sans bijoux.
Voici ce qu'Alexandre en pense.
D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est la connaissance sur ce lieu-là. C'est quoi la nature sur le lieu? Donc, il faut faire une caractérisation environnementale du site. C'est quoi les espèces floristiques, fongiques, les animaux qui existent sur ce lieu-là, puis comment la dynamique fonctionne. Puis ça, ça veut dire qu'il faut aller, si on n'a pas ces compétences-là à l'interne, il faut aller consulter les organisations qui l'ont, puis faire ces travaux-là avec. Normalement, au niveau local, on peut travailler avec le Conseil régional de l'environnement. On peut travailler avec des organismes environnementaux comme Conservation de la Nature Canada qui ont les compétences pour faire ce genre de diagnostic-là. Ensuite, il y a d'une façon un peu plus directe aussi, il y a le sans-trace. C'est une éthique du plein air. C'est-à-dire qu'on sur le plan de la pratique des individus, par exemple, on peut élaborer un système de signalisation lié aux sept principes sans-trace qui vont sensibiliser les gens lors de leur pratique à ramasser leurs déchets, à laisser les lieux tels qu'ils étaient quand ils sont arrivés. De manière générale. Puis si on l'applique le sans-trace à l'offre de service des gestionnaires, ça peut être un parc, un organisme ou même une municipalité qui gère un parc local, bien, cette municipalité-là, ça peut se traduire en la promotion des principes sans-trace dans ses communications sur ses sites web, sur les cartes papier. Ça peut se traduire aussi dans une politique locale de gestion intégrée de l'environnement en faveur de son accès aussi. Puis ça peut se traduire dans des activités de communication pour le public et tout ça. Mais c'est tout ça le sans-trace. Il faut que ça s'intègre aux pratiques des organisations pour avoir une influence sur celle des individus. Il y a aussi des politiques de saine gestion de l'achalandage qu'il faut mettre en place. Puis je sais qu'il y a une collègue qui en a parlé un petit peu plus tôt. De mon côté, je dirais qu'il faut savoir diversifier le nombre de sites de plein air qu'on a. Fait que plus on en a, moins il va y avoir de possibilités de faire du surachalandage. Puis on peut se servir même des technologies pour y arriver. Mais si on avait, par exemple, un outil de gestion de l'achalandage en direct, bien, les individus pourraient être relocalisés sur des sites où il y a moins de personnes, il y a moins d'individus. De toute façon, ça va valoriser la qualité de leur expérience.
Hey, as-tu vu ça, la nouvelle application FlickFlock?
Ça, c'est-tu l'application qui dit le nombre de coureurs, de marcheurs puis de rampeurs dans un sentier, ça?
En plein ça, puis avec la nouvelle option, là, on voit le nombre d'écureuils, le nombre de couleuvres, puis le nombre de petits caca de chiens qu'on voit dans un sentier.
Malade!
De retour à Alexandre.
Il faut se doter aussi d'un système de suivi au niveau de la biodiversité. Pas juste des humains, mais au niveau des animaux aussi, puis de la nature. Ça veut dire qu'il faut avoir des contacts directs puis un peu de budget quand même pour avoir des caractérisations qui sont continues puis des suivis de ces caractérisations environnementales-là. C'est pas à négliger parce que c'est comme ça qu'on va savoir si on a un bilan positif ou négatif avec la fréquentation de nos sites de plein air. Puis il y a des accréditations environnementales qui permettent aussi à, si on déploie certaines offres de services à des entreprises, si on les délègue à des entreprises, eh bien, il y a Aventure Écotourisme Québec a des accréditations comme Écotourisme Québec qui donne un certain nombre de normes et au niveau de la qualité. Fait que c'est tout un cahier de charges à suivre pour les entreprises qui devraient respecter une certaine intégrité environnementale dans leur pratique. Puis j'irai plus loin, je terminerai avec ça, mais je pense qu'au niveau des travailleurs en loisirs, on n'est plus à l'heure de savoir seulement si on doit faire une saine gestion d'un site naturel. Il faut que les sites naturels auxquels on donne accès provoquent des bilans positifs pour l'environnement. Donner accès à une forêt ou à un milieu naturel doit améliorer la qualité de l'environnement et non pas juste la stabiliser ou bien la restreindre. Donc, je terminerai avec ça, mais juste espérons que les travailleurs en loisirs, ça va leur parler.
On finit cet épisode avec Sylvie qui fait du pouce sur la dernière réponse d'Alexandre, mais qui en rajoute une couche en s'attardant sur la gestion de l'achalandage. Plus précisément, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer d'une saine gestion de l'achalandage, notamment pour les sites les plus populaires?
L'enjeu est majeur parce que, effectivement, autant qu'on va dans un parc régional ou dans un parc de la CEPAC, il y a des règles à suivre, et il y a tout un volet préservation, conservation qui est très important. Donc, les sentiers sont aménagés, pensés pour éviter une forte pression sur ces espaces-là. Mais quand on est dans des espaces informels, ça reste des espaces très libres d'utilisation, même si au final, il y a quand même des propriétaires derrière, mais c'est utilisé par les citoyens, et au final, il n'y a pas vraiment, les sentiers se multiplient, il va y avoir des jumps pour le vélo de montagne, des ponts qui sont faits, des ponts de fortune, on va planter des clous, on va couper des arbres, tu sais, ça reste très informel, et effectivement, il y a un enjeu, parce que ces environnements sont fragiles aussi. Donc, il y a des espèces qui vont peut-être disparaître à force d'être surutilisées. Est-ce que la sensibilisation, justement, des citoyens, est-ce qu'un travail avec les plus jeunes pourrait aider, justement, à faire en sorte que ces espaces-là, on les utilise en les respectant aussi, en faisant en sorte de les préserver.
C'est ce qui met fin à cet épisode du balado de l'OQL. Pour ajouter votre saveur à ce merveilleux projet, on vous invite à nous laisser un petit commentaire en nous indiquant ce que vous avez aimé, mais aussi ce que vous avez moins aimé de cet épisode. On souhaite aussi remercier nos trois invités spéciaux pour leur magnifique participation à cet épisode. Nous vous remercions de votre écoute et on se dit à la prochaine! Ce balado est une présentation de l'Observatoire québécois du loisir. À la réalisation, la voix, le montage et toute autre tâche connexe, Frédéric Ross. Invités spéciaux, Isabelle Falardeau, Sylvie Millot et Alexandre Fréchette.